court récit de la vie d'Anne Cam, ministre de l'Évangile, dans la Société des Amis Anne Cam, fille de Richard Newby, de la paroisse de Kendall, dans le Westmoreland, issue d'une famille de bonne réputation, naquit au 8e mois de l'année 1627. Ses parents lui donnèrent une bonne éducation dans les branches du savoir convenant à son sexe, et s'efforcèrent aussi d'imprégner son esprit de l'amour de la vertu et de la piété. Dans sa 13e année, elle fut envoyée à Londres pour être sous la garde de sa tante et avoir l'occasion de se perfectionner encore dans l'étude. Elle y demeura 7 ans, et ayant été favorisée dès sa jeunesse par les précieuses visites de l'amour de Dieu dans son âme, elle rechercha la fréquentation des personnes les plus religieuses et se rattacha aux puritains, pensant qu'ils étaient les plus pieux et les plus conséquents. Après son retour à Kendall, ses exercices religieux se poursuivirent, et désirant trouver une voie plus parfaite, elle se joignit à une compagnie de chercheurs sincères, qui se réunissaient souvent pour le culte divin, tantôt assis en silence, tantôt tenant des entretiens religieux, et s'adonnant fréquemment à une prière fervente. À ces réunions, John Maudlin assistait parfois, bien qu'il habitât à une distance considérable, son esprit y étant attiré par le désir de prendre part à cette nourriture spirituelle qui, par la bonté du Seigneur, leur était parfois dispensée. Anne Newby et John Maudlin ayant fait connaissance, se marièrent vers l'année 1650, et en 1652, assistèrent à la mémorable réunion tenue par George Fox à la chapelle de Fairbank, où son ministère vivant et puissant fut béni pour leur convaincrement, et ils rejoignirent tous deux la Société des Amis. John Maudlin avait auparavant été prédicateur parmi les Décides, et son époux était estimé comme une femme d'une grande piété, mais venant plus pleinement sous l'action de ce baptême qui est du Saint-Esprit de feu, celui-ci opéra puissamment en eux, préparant leur cœur comme des vases vides, lavés et sanctifiés pour recevoir les dons du Seigneur, et l'année suivante, tous deux se manifestèrent dans l'œuvre du ministère pour l'édification et la consolation de leurs amis, et le convaincrement de beaucoup d'autres. En tout, elle fut une aide précieuse et une collaboratrice de son digne mari, chère à son cœur par la similitude de leurs dispositions et de leurs aspirations, et par le lien plus élevé et plus fort de l'amour céleste. Dans l'exercice des dons ainsi confiés, ils furent des travailleurs infatigables, sacrifiant librement leur temps et leurs biens, les commodités du foyer et la compagnie l'un de l'autre, et endurant bien des privations et d'amères souffrances, pour rendre témoignage aux grandes vérités de la religion chrétienne. Son premier voyage dans l'œuvre du ministère fut dans le comté de Durham, et, occupée à prêcher au peuple dans la ville d'Auckland, un jour de marché, elle fut arrêtée et emprisonnée. Mais l'amour qui la poussait à chercher le salut des âmes ne devait pas être enfermé entre les murs étroits d'une prison. Sous son influence contraignante, elle continua de prêcher au peuple, depuis la fenêtre de la geôle, proclamant les vérités de l'Évangile et inculquant la nécessité de s'employer sérieusement au bien de leurs âmes immortelles. Plusieurs personnes furent profondément touchées par son témoignage, et vers le soir, elle fut relâchée. John Longstaff, homme d'une certaine considération dans le voisinage, fut si atteint par son ministère qu'il l'accompagna volontairement en prison et, à sa libération, la conduisit chez lui. Sa femme, toutefois, offensée par la conduite de son mari et par le changement apparent, le reçut, lui et son hôte, avec des paroles qui montraient sa désapprobation. Ne voulant pas loger là où elle percevait que sa présence n'était pas souhaitée par l'un des chefs de famille, Anne se retira dans les champs, se proposant d'y chercher quelque abri où elle serait en sécurité pour la nuit. Mais il arriva providentiellement qu'Anthony Pearson, personne respectable de Ramshaw, qui avait autrefois été juge de session, entendant par George Fox alors chez lui, qu'Anne était à Auckland, s'y rendit justement à ce moment et la conduisit à sa demeure. Après sa libération, elle poursuivit ses voyages dans le ministère de l'Évangile, au bénéfice spirituel de beaucoup, et lorsqu'elle crut que le service qui lui était assigné était accompli, elle rentra chez elle. L'année suivante, accompagnée de Mabel, épouse de John Cam, elle fit un voyage à travers le Yorkshire, le Derbyshire, le Leicester et jusque dans l'Oxfordshire. À Banbury, elles se rendirent au lieu de culte public, mais les gens les tirèrent hors de la maison de manière grossière et violente et les maltraitèrent dans la cour, et le prêtre passant par là, Anne Maudlin attira son attention en disant « Voyez les fruits de votre ministère ». Le lendemain matin, elles furent conduites devant le maire, et l'on se procura deux témoins pour jurer qu'elle avait prononcé un blasphème. En raison du tempérament particulier de l'opinion publique à cette époque, ainsi que des lois récemment promulguées, il n'était pas difficile d'obtenir des condamnations pour blasphème, et les ennemis des amis avançaient souvent cette accusation sur les fondements les plus faux ou les plus insuffisants, dans l'espoir d'infliger de lourdes peines. Sur la dénonciation de ces accusateurs, Anne Maudlin fut écrouée et sa compagne renvoyée. Après quelques jours, deux habitants respectables de la ville se portèrent garants de sa comparution aux prochaines assises et elle fut remise en liberté. Infatigable dans l'accomplissement du service de son seigneur, elle employa son temps à proclamer la bonne nouvelle de la vie et du salut à Banbury et dans ses environs. Et par la puissance et le sceau du Saint-Esprit accompagnant son ministère, nombre de personnes furent convaincues des vérités qu'elle prêchait et se tournèrent vers la grâce de Dieu dans leur propre cœur, qui apporte le salut par Christ Jésus le Seigneur. Parmi celles-ci figuraient les deux hommes qui s'étaient portés caution pour elle, lesquels, avec plusieurs autres, rejoignirent la Société des Amis. L'établissement d'une grande réunion à Banbury et de plusieurs autres dans la campagne avoisinante fut une part du fruit de ses labeurs fidèles, et, à l'égard de ses amis dans ces lieux, elle conserva l'affection la plus tendre jusqu'à la fin de sa vie. Ainsi la malice de ses ennemis fut retournée en bien et mise au service de l'avancement de cette cause bénie, plus chère à ses yeux que la parenté ou la vie. Le succès qui accompagna ses travaux provoqua les persécuteurs, et ils menacèrent de la brûler vive. Ses ennemis étaient grandement exaspérés, et ayant de leur côté un pouvoir d'influence considérable, plusieurs amis estimèrent de leur devoir d'assister aux assises et, par leur sympathie et leur aide, ainsi que par leur présence, de l'encourager et de la soutenir dans la défense de la cause de la vérité et de la justice. Son mari, John Cam, Thomas Cam et plusieurs autres venus de Londres et de Bristol étaient du nombre. L'acte d'accusation était fondé sur l'affirmation qu'elle avait dit « Dieu ne vivait pas ». C'était là une entière déformation de ses paroles. En s'adressant au prêtre de Banbury, elle avait observé que des paroles vraies peuvent être fausses dans la bouche de certains qui les prononcent en parlant des méchants. Et pour prouver et expliquer sa pensée, elle avait cité les paroles du prophète Jérémie. « Quoi qu'ils disent, le Seigneur est vivant, assurément ils jurent faussement. » Au de ces expressions, ils fabriquèrent l'accusation de nier que Dieu vivait, mais lorsque la preuve fut examinée, elle ne démontra pas ce que ses ennemis voulaient. Au cours du procès, elle se conduisit avec tant de prudence et de fermeté innocente, tempérée d'une modestie engageante, et donna des réponses si pertinentes et judicieuses aux questions qui lui étaient posées, que le juge était manifestement enclin à l'acquitter, malgré le pouvoir et l'influence de ceux qui recherchaient sa condamnation. Constatant la faiblesse des preuves, et que les faits ne soutenaient pas l'accusation, il observa en s'adressant au jury qu'il était évident qu'elle reconnaissait que le Seigneur son Dieu et Rédempteur vivait, mais qu'il y avait aussi des dieux des païens, qui étaient des dieux morts et ne vivaient pas. Certains des juges de paix qui avaient été actifs pour la faire incarcérer, voyant que leur dessein risquait d'échouer, descendirent du banc et se mêlèrent au jury afin d'influencer leur esprit contre elle. Ce qui étant remarqué par un autre des juges, celui-ci se leva et dit qu'il ne siégerait plus là jusqu'à ce qu'il témoigne davantage de respect pour la justice, et d'autres officiers du tribunal jetèrent à terre leurs bâtons et protestèrent contre ces procédures arbitraires et injustes. Au retour du jury, il fut rapporté qu'elle était coupable seulement d'un délit mineur, ce qui amena certains de ses amis à observer qu'un tel verdict n'était pas légal, et que, étant inculpé pour une infraction, il ne pouvait la condamner pour une autre, mais devait simplement répondre coupable ou non coupable sur l'acte d'accusation en vertu duquel elle avait été jugée. Il est douloureux de constater le relâchement des procédures judiciaires à cette époque, et combien souvent les formes les plus sacrées de la justice, qui constituaient la sauvegarde et le rempart des droits et de la liberté du sujet, et souvent même de la vie, étaient renversées et foulées aux pieds pour satisfaire des sentiments d'animosité privée ou de haine publique, ou pour assouvir les exigences d'un fanatisme impitoyable et persécuteur. Bien qu'acquitté légalement et honorablement, le juge, désireux d'apaiser la rage déçue de ses ennemis, exigea une caution de bonne conduite, ce que, en femme innocente et de bonne réputation, elle refusa de fournir, et il la renvoya en prison. Conscient, semble-t-il, de l'iniquité autant que de l'illégalité de leurs agissements, et souhaitant se soustraire à leur part de responsabilité, les juges de paix, l'un après l'autre, s'éclipsèrent du banc avec confusion pendant cette scène, sans aucun ajournement régulier de la cour, ce qui suscita beaucoup de commentaires. La voilà désormais livrée aux mains de ses oppresseurs. Elle fut jetée dans un cachot immonde, plusieurs marches au-dessous du sol, dont un côté longeait l'égout public, exhalant une puanteur horrible et laissant entrer des grenouilles et de la vermine qui infestaient son réduit. Il était aussi dépourvu de tout moyen de faire du feu pour réchauffer les détenus ou dissiper les vapeurs nocives qui s'exhalaient de son contenu sale et répugnant. Jeanne Waugh, qui était aussi ministre parmi les amis, animée par des sentiments de sympathie et d'affection pour son ami emprisonné, parcourut de nombreux kilomètres pour lui rendre visite et fut récompensée de cet acte chrétien d'amour par la participation à ses souffrances, tel étant le seul crime allégué contre elle par ses persécuteurs sans merci. Si rudes que fussent pourtant leurs conditions extérieures, et cruelles les privations qu'elles durent endurer, il y avait au-dedans paix et joie. Consciente de souffrir pour la cause de ce Sauveur béni qui avait tant souffert pour elle, soutenue par le sentiment de sa sainte présence, elles passèrent les jours de leur emprisonnement dans une sérénité joyeuse. Au bout d'environ 8 mois, et environ 1 an et demi après sa première incarcération, Anne Audelan fut libérée. Après avoir tenu un certain nombre de réunions à Banbury et aux alentours, et par ses sollicitations, obtenu du maire et des échevins la libération de son ami Janwo, elle voyagea à travers plusieurs comtés jusqu'à Bristol, où elle retrouva son bien-aimé mari. Elle se joignit à lui dans le service religieux, demeurant en sa compagnie jusqu'à ce qu'ils atteignent leur foyer dans le Westmoreland. Par la suite, ils entreprirent tous deux de fréquents voyages afin de promouvoir la justice sur la terre, parfois ensemble, parfois séparément, jusqu'à ce que son mari fût rendu incapable de poursuivre son labeur par une attaque de maladie, qui finit par emporter sa vie en l'année 1603, âgé d'environ 34 ans. Il mourut dans une grande paix, souvent rempli de louanges à Dieu, et submergé par le sentiment de son amour et d'une joie indicible, comme un avant-goût de la gloire et de la félicité qui attendait son esprit racheté. Ce digne couple, étroitement uni par les liens de l'affection chrétienne, jouissait d'un grand bonheur domestique, ce qui rendit l'épreuve de leur séparation plus sévère pour la veuve éplorée. Néanmoins, elle la supporta avec fortitude chrétienne et résignation à la volonté divine, et dans un hommage à la mémoire de son mari qu'elle rédigea, elle s'exprime ainsi. Dieu, qui par sa providence nous a unis dans le mariage en de jeunes années, a aussi par son conseil béni fait lever sur nous son jour d'en haut, dans la lumière mère. Et par l'action vivifiante de sa sainte puissance, nous avons été faits un dans une relation spirituelle et céleste, nos cœurs étant liés ensemble dans l'amour indicible de Dieu, qui était notre joie et notre délice, et rendait nos jours ensemble extrêmement doux, nos jouissances temporelles en étant sanctifiées et devenant pour nous une bénédiction. Combien il m'a été dur, et quelle grande perte ce fut pour moi de me séparer d'un mari si cher et si tendre, est bien au-delà de ce que je puis exprimer. Ma langue ou ma plume n'est pas capable de dire ma douleur, pourtant je me contente de ceci, c'est la volonté du Seigneur de l'ôter du mal à venir, et ma perte, quoique grande, n'est pas comparable à son gain éternel. Après être demeurée veuve entre 2 et 3 ans, Anne Audelan épousa Thomas Cam, fille de John Cam, l'ami intime et le fidèle compagnon de son premier mari. Thomas Cam était un homme d'une solide expérience religieuse et un ministre fidèle de l'Évangile. Leur union, fondée sur la religion et contractée dans la crainte de Dieu, avec un regard unique pour son honneur et la promotion de sa cause, leur procura un grand réconfort dans la compagnie l'un de l'autre, et ils vécurent dans la plus parfaite harmonie et affection pendant près de 40 ans. Au milieu des diverses et sévères épreuves qui les accompagnèrent, ils trouvèrent que leur religion était un soutien infaillible pour leurs esprits, et une source de paix et de joie dont la malice et la cruauté des persécuteurs ne pouvaient les priver, réalisant la vérité de cette parole de la Sainte Écriture. Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Anne Cam eut sa part des souffrances de ce temps d'épreuve, mais, demeurant ferme dans la foi et l'espérance de l'Évangile, et cherchant avec ardeur le soutien divin, elle fut rendue capable de les supporter avec une résignation patiente et une fortitude chrétienne. Outre ses propres emprisonnements, elle fut fréquemment séparée de son second mari, comme elle l'avait été du premier, par une succession d'emprisonnements longs et rigoureux pour raison de conscience. Il fut détenu si étroitement à Candale pendant 3 ans qu'il ne lui fut pas permis de voir sa famille durant tout ce temps, puis ensuite pendant près de 6 ans à Appleby. Dans toutes ses souffrances et ses services, elle partagea avec lui comme une aide fidèle, compatissant à ses peines et l'encourageant dans ses souffrances pour le témoignage de Jésus, tenant sa place autant qu'elle le pouvait dans sa famille et ses affaires, et exerçant un soin prudent pour maintenir leurs affaires extérieures dans un ordre louable. Lorsqu'il était en liberté et se croyait appelé à quitter la maison dans l'œuvre du ministère, non seulement elle le remettait librement au service du Seigneur et l'encourageait à y être fidèle, mais elle fut aussi parfois une puissante collaboratrice avec lui dans l'Évangile, accomplissant plusieurs voyages en sa compagnie, à travers différentes parties du pays, pour l'édification et la consolation de l'Église. Lors de l'un de ses voyages, elle eut une grave attaque de maladie à Bristol, qui sembla menacer sa fin, mais son esprit fut élevé au-dessus de la crainte de la mort et conservé dans une disposition douce et vive. Beaucoup de ses paroles étaient si graves et touchantes qu'elles produisirent une impression profonde et durable sur l'esprit de ses auditeurs. Elle exhorta tous à estimer leur temps et à se préparer à mourir, tant que l'occasion leur était miséricordieusement accordée, bénissant le Seigneur d'avoir incliné son cœur à le faire dès sa toute première jeunesse, dont elle recueillait maintenant le fruit, à savoir une paix indicible ici-bas, avec la bienheureuse assurance du repos et de la félicité éternelle dans la vie à venir. Il plut toutefois au Seigneur de la relever de ce lit de maladie, et de lui permettre de poursuivre ses travaux zélés et ferves pour l'avancement de la justice, servant fidèlement l'Église du Christ durant de nombreuses années encore. Bien qu'elle fût, à juste titre, tenue en honorable estime à cause de ses œuvres, ainsi que de ses nombreuses vertus et qualités, naturelles et spirituelles, elle demeura néanmoins préservée dans l'humilité, ne faisant pas ses œuvres pour être vue des hommes, mais recherchant plutôt le retrait et désirant l'honneur qui vient de Dieu seul. Elle avait l'habitude de se retirer souvent seule dans son cabinet ou en quelque autre lieu privé et d'y attendre le Seigneur dans une prière fervente, afin de rechercher son conseil et son approbation, et aussi de réserver chaque jour un temps pour lire les Saintes Écritures et d'autres livres religieux. Dans l'assiduité aux réunions pour le culte de Dieu, elle était un exemple de grande diligence, très révérente dans son attente devant lui, et bien qu'elle fût dotée d'un excellent don dans le ministère, au-delà de la plupart, elle n'était pas prompte à se montrer, que ce soit en prédication ou en prière. Lorsqu'elle s'y engageait, sa manière était fervente et pleine de poids, et son témoignage se donnait dans la démonstration de l'Esprit et avec puissance pour le rafraîchissement de l'Église et l'éveil et l'avertissement des transgresseurs. Dans les grandes réunions publiques, où se trouvaient des frères bien qualifiés pour l'œuvre du Seigneur, sa voix était rarement entendue, sauf sous quelques contraintes extraordinaires, et douée d'un entendement solide et de discernement, elle savait quand parler et quand se taire, demeurant à son rang et à sa place dans la vérité. En cela, elle était un bon exemple, et lorsqu'elle voyait certains trop empressés ou trop prompts à se montrer en public, comme une mère sage et nourricière, elle les admonestait avec tendresse, souvent avec bon effet, veillant aussi à encourager ceux qui étaient sincères et timides, qui se présentaient pour rendre témoignage à Dieu avec un cœur tremblant et une langue balbutiante. Ainsi se comportait-elle en humble servante de son Seigneur et Maître, Christ Jésus, lavant les pieds de ses disciples, aidant et servant les plus petits et les plus délicats de son troupeau. Son dernier témoignage public eut lieu à la réunion mensuelle de Candale, le deuxième jour du neuvième mois, 1705. Bien qu'avancée en âge et affligée des infirmités propres à la vieillesse, la vivacité et la ferveur de son esprit demeuraient intactes, et ses facultés, fortes et claires, suscitaient l'admiration. Dans cette allocution d'adieu, elle pressa ses amis avec une touchante insistance d'être fidèles et diligents au service de leur Seigneur, afin qu'ils puissent recevoir une récompense bénie avec ceux qui avaient presque achevé l'œuvre de leur jour et allaient entrer dans leur repos éternel. Le jour suivant, elle fut atteinte de la maladie qui mit fin à sa vie, et au cours de sa maladie, elle éprouva les heureux effets de sa religion, qui la soutenait au milieu de l'infirmité et de la douleur, et lui permettait d'envisager avec joie son changement prochain, dans l'humble assurance qu'une couronne de gloire impérissable l'attendait. Son mari, qui connaissait le mieux sa valeur, étant touchée de tristesse à la perspective d'être privée d'une compagne si précieuse, elle s'efforça avec une noble fermeté de le consoler et de l'encourager à se soumettre avec une résignation joyeuse à la volonté divine, disant « Mon cher, s'il plaît au Seigneur, qui nous a unis et nous a bénis jusqu'ici, de nous séparer maintenant, je te prie d'être content et de me remettre librement au Seigneur, car tu sais que nous devons nous quitter, et si je pars la première, ce n'est que ce que j'ai demandé. Je crois que la considération de l'état désolé, où je serais laissé si je te survivais, t'amènera à me confier plus librement au Seigneur, à qui j'appartiens et que j'ai aimé, craint et servi d'un cœur droit tous les jours de ma vie. Sa paix indicible, je la goûte maintenant, et sa santé salvatrice est mon partage pour toujours. Je te prie, sois content de ce qu'il plaît au Seigneur de faire de moi, que ce soit la vie ou la mort, que sa sainte volonté soit faite. Laissons tout au Seigneur, et quoi qu'il en soit, tout ira bien. Je t'ai aimé de toute mon âme, et Dieu nous a bénis, et il te bénira et sera avec toi, et il réparera toutes tes pertes. La mort est un gain pour moi, bien qu'elle soit ta perte, et j'espère que, pour l'amour de mon gain, tu supporteras ta perte avec patience. Je bénis le Seigneur, je suis préparée pour mon changement. Je suis pleine d'assurance du salut éternel et de recevoir une couronne de gloire, par mon cher Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que Dieu le Père a envoyé pour me bénir et bénir beaucoup d'autres, en nous détournant du mal, de nos voies vers le sentier de l'homme juste, qui luit de plus en plus jusqu'au jour parfait. Si Dieu veut maintenant achever ma course et me retirer de ce tabernacle terrestre, j'en suis bien contente. Je suis en paix et je me suis acquittée devant Dieu envers tous les amis, sauf que ces derniers temps, j'ai à cœur d'envoyer une épître d'adieu aux amis du Sud. Elle dit que l'essentiel de ce qu'elle souhaitait leur communiquer était le souvenir de son cher amour pour eux tous, avec un tendre conseil au professeur de la vérité, de demeurer dans sa simplicité, hors de toute hauteur et exaltation, sous la puissance de la croix du Christ, qui les crucifierait de plus en plus au monde et les baptiserait en Christ. Ainsi ils revêtiraient le Christ Jésus, l'homme nouveau et céleste, en qui ils deviendraient de nouvelles créatures, préparés à servir Dieu en esprit et à jouir de l'unité dans le lien de la paix et de l'amour, unité que le Dieu de ce monde s'efforce de briser. Je l'ai vu à l'œuvre pour faire une brèche et une séparation parmi les amis, et s'il prévaut, ce sera sous des prétextes spécieux d'une apparence plus angélique que jamais auparavant, ce qui trompera ceux qui vivent au-dessus de la croix et du véritable renoncement à soi. Et je voudrais avertir tous de tenir ferme sur leur position dans la puissance de Dieu, qui seul peut écraser Satan et préserver de ses pièges subtils. Plusieurs amis venant la voir, elle les exhorta à estimer leur temps. Et après avoir donné beaucoup d'excellents conseils, elle ajouta « Je bénis mon Dieu de ce que je repose maintenant dans une grande paix et contentement, quoique mon corps soit affligé de douleur. Oh, que cela soit ainsi pour vous tous, mes chers amis !» Étant très faible et abattue, on demanda si elle reconnaissait certains amis qui étaient présents. Elle répondit « Oui, je vous connais tous, mon entendement est aussi clair que jamais. Comment en serait-il autrement, puisque ma paix est faite avec Dieu par le Seigneur Jésus-Christ ? Je n'ai aucun trouble d'esprit, et mon entendement et mon jugement sont clairs. Il serait triste, en vérité, d'être affligé dans le corps et dans l'esprit aussi, de sentir des douleurs poignantes du corps jusque dans la mort et de manquer de paix avec Dieu. Oh, cela serait intolérable ! Oh, que mon âme loue le Seigneur pour sa paix et sa rédemption abondante !» Comme il avait été proposé d'envoyer chercher son gendre, qui s'y connaissait en médecine, ainsi que sa fille, elle sembla réticente, disant à son mari « Ne te tourmente pas à ce sujet, le Seigneur mon Dieu est près de moi, et j'ai ta compagnie, cela suffit, et tout ira bien si cette masse d'argile dans laquelle j'habite se dissout. J'ai la pleine assurance d'une maison et d'une demeure dont Dieu est l'architecte, qui ne vieillira jamais et ne se dissoudra point. Ô mon âme, bénis le Seigneur et réjouis-toi en son salut à jamais. » Sa maladie s'aggrava et beaucoup d'amis venant la voir, elle s'employait souvent à les exhorter au sujet de l'œuvre du salut de l'âme. À une occasion, elle dit à certains « La croix est le seul chemin vers la couronne immortelle, ne la fuyez donc pas, de peur d'être privé de la couronne. Tenez-vous noblement pour votre témoignage à la vérité en toutes choses, et surtout contre le joug antichrétien des dîmes, pour lequel beaucoup ont non seulement subi de grands dépouillements de leurs biens, mais l'emprisonnement jusqu'à la mort, et ont reçu la couronne de vie. Oh, si tous ceux qui ont été appelés à ce témoignage y avaient tenu ferme et fidèlement, Dieu aurait agi plus abondamment pour son peuple, mais l'incrédulité fait durer le désert, et il est heureux que certains n'y meurent pas et ne voient jamais la terre promise. » Environ 2 jours avant son décès, elle donna beaucoup de bons conseils à ses petits-enfants et à ses domestiques, et s'adressa ainsi à son mari « Mon cher, tu as dépensé beaucoup de temps et de force à servir la cause de la vérité et tes amis, ta récompense auprès de Dieu est certaine. Je ne me suis jamais plainte de ton absence dans ce bon service, et si c'est maintenant le temps de notre séparation, comme je pense que ce le sera, je désire que tu te dégages des choses du monde autant que possible, afin de pouvoir, avec plus de liberté, poursuivre ton honorable service pour la vérité jusqu'à la fin de tes jours. J'ai confiance que le Seigneur te donnera la force de voyager encore et d'avertir tous, mais surtout les riches, de rester humbles et de ne pas avoir l'esprit élevé, car l'humilité et la sainteté sont l'insigne de notre profession. Que Dieu Tout-Puissant nous garde tous dans l'abaissement et l'humilité, c'est un état sûr et béni. Une chose, je te la demande, remets-moi librement au Seigneur. Le Seigneur nous a unis et nous a donné l'un à l'autre. Bénissons son nom s'il nous enlève maintenant l'un à l'autre quant à l'extérieur, ce n'est que cela, car notre union en esprit demeure pour toujours. Laisse-moi donc sortir aisément de ce monde, où j'ai eu une grande part de troubles de bien des manières, comme tu le sais, et aller à ce port de repos, où j'ai pleine assurance d'entrer. Un peu avant de mourir, elle fut prise d'un évanouissement, et après avoir repris connaissance, elle observa « J'ai été contente, pensant que j'allais à mon repos éternel sans trouble. » Puis elle dit encore « J'ai à la fois la vue et le sentiment du repos éternel avec Dieu dans le monde à venir, et c'est pourquoi je travaille ardemment à être englouti dans la vie immortelle et à être rendu possesseur de ce repos qui ne peut être troublé, où la douleur cessera pour toujours. Oh, mon âme, ceci est ta portion glorieuse, bénis donc le Seigneur et attends patiemment la saison qu'il a fixée. » Peu après, elle demanda à être relevée dans le lit, et ses douleurs augmentant, elle devint très faible et défaillante, et observa « Je crois que je deviens faible et froide, mes mains et mes pieds sont très froids, mais mon cœur est fort. Et avant qu'il ne cède, je devrais éprouver des douleurs plus vives que celles que j'ai encore ressenties. Mon Dieu a jusqu'ici posé sur moi une main douce. Quelque temps après, ses souffrances étant grandes, elle dit « Cette douleur est dure pour la chair et le sang, mais il faut la supporter encore un peu, le soulagement et le repos éternel sont proches, je suis heureuse que la mort soit si près. » Souvenez-vous de moi, auprès de tous mes chers petits et de mes petits-enfants, je ne les verrai plus de ses yeux, que Dieu Tout-Puissant les bénisse tous et en fasse ses enfants, afin que je puisse les retrouver pour toujours dans les cieux. Je ne verrai pas non plus mes filles et ma fille, ah, mon fils prodigue, que puis-je faire pour lui? J'ai prié et aspiré à son retour, le temps peut venir, que Dieu l'accorde, mais je ne le verrai pas de mon vivant. Il est mon fils, le fils d'un père pieux, son premier mari, et je ne puis donc que l'aimer. Dis-lui que c'est le bien de son âme immortelle qui me préoccupe, non tant son état extérieur ici, car celui-là, si misérable soit-il, finira bientôt, mais la misère de l'âme, séparée de Dieu, ne finira jamais. Et, mon cher, bien que nos conseils n'aient pas produit l'effet désiré, je te supplie pourtant de demeurer un père pour lui, et de le conseiller encore et encore, ne le laisse pas courir dans la voie de la misère, mais travaille et prie pour son retour. Mon amour va à sa femme, je désire qu'elle s'attache aux choses célestes, et je prie Dieu de bénir leur descendance, afin qu'ils marchent sur les traces de leur grand-père, qui est entré dans son repos éternel. Le jour de sa mort étant celui de la réunion mensuelle, beaucoup d'amis vinrent lui rendre visite. Elle leur exprima, avec grande ferveur, sa joie et sa consolation dans le salut de Dieu, sa paix et sa rédemption parfaite. Voyant certains d'entre eux pleurer, elle dit « Ne vous inquiétez pas pour moi, tout va bien, je n'ai que la mort affrontée, et son aiguillon est entièrement ôté, la tombe n'a pas de victoire, et mon âme s'élève au-dessus de toute tristesse et de toute douleur. Laissez-moi aller librement vers ma demeure céleste, ne me troublez pas dans mon passage. » Elle demanda alors aux amis présents d'aller à la réunion, ajoutant « Ne me laissez pas empêcher l'œuvre du Seigneur, mais qu'elle soit première en vos pensées, et qu'elle soit accomplie fidèlement par vous tous, afin qu'à la fin vous receviez votre récompense. La mienne est certaine, je n'ai pas été négligente, et l'œuvre de ma journée est achevée. » Estimant que la main de la mort était sur elle, et sentant ses douleurs augmenter, elle supplia ardemment le Seigneur de l'aider dans le dernier combat, disant « oh mon Dieu, tu ne m'as pas abandonné, béni soit ton nom pour toujours. Ô mon Seigneur et Sauveur béni, qui a souffert pour moi et pour tous les hommes de grande douleur dans ton saint corps sur la croix, souviens-toi de moi, ta pauvre servante, dans cette grande affliction de mon corps. Je me confie en toi, mon espérance est en toi seul, mon cher Seigneur. Ô viens, viens, cher Seigneur Jésus, viens vite et reçois mon âme. Je te la remets, aide-moi maintenant dans mes douleurs amères. » Son mari s'agenouilla alors près d'elle et pria pour que le Seigneur rende son passage facile, et leurs prières furent gracieusement entendues et exaucées. Elle n'eut plus de douleurs violentes, mais son souffle se fit doucement de plus en plus court. Elle observa qu'il était bon de tout laisser au Seigneur, et appelant ceux qui étaient présents, elle dit « Oh, priez, priez, priez !» et ainsi elle s'endormit en Jésus, en bonne vieillesse, étant dans sa 79e année. Elle mourut le 30 du 9e mois, 1705, et fut honorablement enterré le 3 du mois suivant, ses restes étant accompagnés jusqu'à la tombe par de nombreux anciens amis et d'autres venus de 13 réunions voisines. La fin, le but de ce site web est de montrer comment être affranchi du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.